Nous sommes en compagnie de la psychothérapeute Catherine Dolto, également présidente de l'association Archives et Documentation Françoise Dolto, et Yann Potin, normalien, agrégé d'histoire, professeur à l'Université Paris 10 Nanterre, qui a mis ici ses talents d'archiviste au service de ce travail dont nous allons parler ensemble, la direction de ce livre, Françoise Dolto, Archives de l'intime, qui vient de paraître chez Gallimard, au moment où l'on célèbre, alors de façon multiple, le centenaire de Françoise Dolto, né le 6 novembre 1900. Disparu il y a 20 ans maintenant, 1988, livres, DVD, CD, nous allons les évoquer en amont des journées du centenaire, un colloque organisé cette fin de semaine à l'UNESCO à Paris, dont le titre Françoise Dolto, actualité d'une pensée, sera aussi l'un des axes de notre conversation d'aujourd'hui. Puis à mes côtés, Emmanuel Loyer qui m'a rejoint pour cette seconde partie d'émission et pour vous interroger. Je donne tout de suite quelques autres rendez-vous sur notre antenne consacrée à Françoise Dolto. Demain, l'émission Du grain à moudre de Julie Clarini et Brice Couturier poseront la question « L'enfant roi est-il le fils de Dolto ?» Et pour en parler, Colline Faure-Poiret, qui est l'éditrice de ce livre, notamment chez Gallimard, Didier Pleu, qui a écrit un livre, alors évidemment, polémique, qui s'intitule « Génération Dolto » et Jean-Pierre Winter, psychanalyste, débattront ensemble de cette question. Et puis il y aura un feuilleton qui sera diffusé sur notre antenne du 15 au 26 décembre, de 20h30 à 20h50. Françoise Dolto, portrait au fil des pages. Ce sont des textes choisis et présentés par Muriel Djeribi-Valentin, qui est l'une des contributrices de ce volume. C'est un feuilleton en 10 épisodes sur notre antenne du 15 au 26 décembre, réalisé par Christine Bernard-Sugy. Mais alors, pour commencer, nous, notre rencontre, j'aimerais bien qu'on se serve justement des deux textes introductifs de ce très beau volume, livre étrange et beau, publié chez Gallimard avec le soutien de France Inter. En effet, si on parle souvent de Françoise Dolto, et depuis bien longtemps, l'actualité récente l'a aussi amené sur le terrain judiciaire à l'occasion de ce livre publié par Daniel Ambroso sur Françoise Dolto. Il se trouve que je n'ai pas lu ce livre, donc je ne pourrais pas vous en parler ici, mais si je l'évoque, c'est pour parler de votre rôle, Catherine Dolto, celui que vous décrivez dans toute sa complexité avec ce texte introductif « Ayant droit, ayant devoir » qui commence alors par un segment consacré à la question du deuil, de votre mère, où vous dites notamment que vous ne vous sentez pas dans l'ombre de votre mère, mais dans sa lumière, ce qui est très beau. Mais aussi que votre mère avait répondu un jour à la question « Qu'est-ce qu'une bonne mère ?» par « C'est une mère que l'on peut quitter ». Effectivement, c'est une très très belle réponse, mais ce travail-là, quitter sa mère, elle-même, racontez-vous, vous avez aidé à l'accomplir en préparant, je mets des guillemets, sa mort.
Oui, en préparant son deuil avec nous, d'abord en dédramatisant sa mort, et puis en nous aidant à organiser l'enterrement, le cimetière, etc. Sans, comme elle faisait toujours d'ailleurs, en disant toujours, écoute, c'est une fin de vie qui se déroule, si moi j'en fais pas un drame, toi non plus, s'il te plaît, me disait-elle.
Mais alors, sur la question ensuite de l'ayant droit, vous dites combien cela est, alors je vous cite, stupéfiant et dangereux, Catherine Dolto, de la même façon que votre mère n'a pas dit et écrit que des choses justes, toujours pertinentes, pourquoi faudrait-il que Françoise Dolto fût infaillible, écrivez-vous encore, vous vous méfiez de votre propre capacité ou incapacité à parler à la place du mort?
Bah, maintenant, je me méfie plus parce qu'après 20 ans, et puis parce que je me suis toujours entourée.
C'est dangereux de plus méfier. Hein.
Vous avez raison, donc je vais me reméfier. Non, mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Quand ça vient d'arriver, d'abord, on est dans son deuil personnel, et puis on est entouré de conseilleurs qui projettent sur vous que s'ils étaient à votre place, ils feraient comme ci et comme ça, et qu'ils seraient une bien meilleure fille de Françoise Dolto que vous. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, mais il se trouve que c'était moi. Et qui donc vous envoie des oukases. Tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas censurer ta mère, ou bien...
Ou l'inverse, tu ne vas quand même pas publier ça, parce que c'est pas très flatteur.
Alors, c'est très difficile. Il faut, au début, on se laisse avoir parce qu'on est ému dans l'émotion, et puis on se dit mais de quel droit je ferais ça? Moi, j'ai toujours pensé que c'est pas parce que j'étais sa fille que je connaissais le mieux son œuvre et sa personne, parce que quelqu'un qui a beaucoup travaillé longtemps avec beaucoup de gens, finalement, on se le partage. Il y a des tas de gens qui ont des fragments de Françoise Dolto et qui sont absolument aussi légitimes que moi pour parler d'elle. Moi, j'ai mon angle dans lequel j'ai une certaine légitimité. C'est pour ça qu'on a créé ces archives et que j'ai jamais voulu être seule face à ça, parce que je crois qu'effectivement, ça peut rendre fou quand les gens vous font croire que vous parlez à la place du mort. Et que vous devez assumer tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, et le défendre, et souffrir quand on l'attaque, etc. Surtout quand on a une vie professionnelle bien remplie, ce qui est mon cas, qui ne suis pas psychanalyste, c'est il faut toujours se méfier, parce que sinon on devient vestale. Et c'est quand même un métier difficile, vestale.
Ouais, d'autres s'y sont évidemment épuisés. Alors, deuxième texte introductif de ce livre, pour introduire cette discussion, le livre Françoise Dolto, Archives de l'intime, un titre sur lequel on va revenir. Le texte que vous signez, Yann Potin, vous qui avez assuré la direction éditoriale de ce livre, en tant qu'archiviste, vous vous interrogez d'abord sur l'activité de conservation de Françoise Dolto elle-même, sur la matière finalement qui va composer ce livre. Aujourd'hui, découvrant cette masse de documents dont on va parler, en quoi est-ce que ça vous a renseigné, vous, sur la personne même qu'était Françoise Dolto ?
Effectivement, la masse est assez impressionnante. En même temps, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'étalons pour comparer avec d'autres personnes, puisque très souvent, ce sont des choses qui sont tellement inaccessibles que c'est un peu difficile d'évaluer. Mais quoi qu'il en soit, la masse est impressionnante. Et justement, l'idée peut-être était de tenter l'expérience, d'essayer de voir si une certaine mise au jour de certains documents, puisque c'est forcément une sélection compte tenu de la masse, pouvait dire quelque chose de la personne. Mais c'est pas immédiat. C'est ça, en fait, c'est que c'est forcément différé et que c'est, on a toujours l'impression, en découvrant de nouveaux documents, de nouvelles images, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de photos dans ces archives, classées ou non classées, en découvrant des documents conservés qu'on ne s'attendrait pas à voir conservés, comme, je prends un exemple, voilà, des coupons alimentaires de la Seconde Guerre mondiale ou des
cartes de rationnement de femmes enceintes, notamment.
Voilà, exactement, mais aussi des choses plus éphémères. Enfin, disons dont la conservation demande une certaine un certain soin au moins pendant un moment. Donc effectivement, on a l'impression que ça permet de faire varier le prisme de la personne. Et je crois que c'est aussi ça, moi, qui m'a intéressé dans la mesure où j'essaie de réfléchir au rapport justement entre ce qu'une personne accumule et ce que ça dit de son identité ou du moins de la construction de son sujet, voir que cette accumulation, elle va pas forcément toujours dans le même sens, que voilà, ça c'est un petit peu comme un kaléidoscope finalement de la personne plus que véritablement un monolithe que construit l'archive.
Alors, je parle aussi sous le contrôle d'Emmanuel Loyer, à qui je vais donner la parole. Être archiviste de soi-même, c'est aussi faire une sélection. Alors, à contrario, Yann Potin, est-ce qu'il y a des choses que vous attendiez à trouver et qui n'y étaient pas, des choses que donc Françoise Dolto aurait délibérément écartées?
Disons qu'il y a, pour des raisons, je pense, professionnelles, une grande partie de ces dossiers de patients, de psychanalystes, qu'elle a volontairement détruit.
Tous les dossiers privés.
Tous les dossiers privés. Sauf...
Ça, c'est un geste éthique.
Voilà, c'est ça.
Un choix de conservation, de non-conservation.
Voilà, éthique, et c'est lié à la partie professionnelle de ces archives, puisque en permanence, évidemment, il y a ce problème de frontières.
Mais encore qu'on puisse s'interroger sur la pertinence ou non de garder ces dossiers, même privés, pour une utilisation très lointaine. Mais
alors,
bon, c'est son choix, ça.
C'est son choix, et en même temps, ce qu'on suggère dans l'introduction et dans l'ensemble du livre, finalement, c'est aussi que beaucoup de gestes de conservation ne sont pas forcément immédiatement conscients. Et ça, je crois que ça permet de répondre aussi à la stupéfaction parfois qu'ont certains observateurs en constatant que telle ou telle personne, et quand on regarde beaucoup d'intellectuels, on s'aperçoit que c'est quand même très fréquent, et pas que des intellectuels, ont conservé énormément, et en fait, on présuppose forcément que c'est conscient, qu'il y avait une stratégie de conservation, presque un culte de soi-même. Alors que, on peut faire aussi l'hypothèse inverse, c'est qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'inconscient qui se produit dans cette incapacité à ne pas à jeter, finalement.
Mais
parce que finalement, il y a ça aussi.
D'abord,
c'est-à-dire
oui.
Cette idée que, au fond, la difficulté, c'est de jeter. C'est pas tellement...
voilà. De conserver.
Ça veut pas dire forcément qu'on veut conserver. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à jeter.
Ce qui est très curieux, c'est que nous ne savions pas du tout qu'elle gardait tout ça.
J'allais y venir.
Oui,
à...
par exemple, dans le livre, il y a la photo d'un buste en terre cuite de moi petite, dont je ne savais absolument pas qu'il existait. Il était au fond du placard des savonnettes, mais très au fond, comme toute la correspondance que nous avons publiée après. Et nous n'avions pas du tout une vision de notre mère comme une gardeuse, parce que pour les choses du quotidien, elle était plutôt une jeteuse. Garde pas ça, ça sert plus à rien, etc. Donc ça a été une découverte. Et en plus, quand Yann est arrivé, il m'a fait voir à quel point c'était original et étrange, cette façon qu'elle avait eue. Parce que vous savez, les choses sont sous votre nez, mais il manque quelquefois un regard pour les voir. Et c'est le regard de Yann qui m'a révélé cette incroyable manière qu'elle avait eue d'archiver. Et je crois, elle dit d'ailleurs dans le texte Traversée du siècle, elle dit « Moi, le temps m'échappe tout le temps. Dès qu'une chose est finie, j'y pense pas. » Et je me demande si, en ayant conscience qu'elle traversait une époque incroyablement intéressante, elle n'a pas gardé, justement pour se libérer de ne pas avoir à s'occuper du temps. Quoi. Ça restait, et donc ça ferait ce que ça aurait à faire après, ou rien. Mmh. Elle ne m'a jamais dit « j'ai laissé plein d'archives, il faut que tu en fasses quelque chose ». Jamais.
Ah ben, vous en avez fait déjà une belle chose avec ce livre, Archives de l'intime, et pour bien qu'on comprenne justement l'originalité de cet ouvrage. Mais il y a une raison objective aussi au fait que vous ne voyiez pas, c'est-à-dire qu'elle habitait le même appartement pendant 50 ans, et que quand on déménage pas, forcément, on fait pas de tri, donc les choses s'entassent, une sorte de sédimentation de l'archive. Mais alors, on sait évidemment l'importance particulière que Françoise Dolto attachait au dessin d'enfants, notamment à travers ce que lui avait transmis Sophie Morgenstern très tôt dans son parcours. Est-ce que vous saviez que votre mère gardait les dessins de ses enfants classés, annotés? Est-ce que ça a été une découverte pour vous, Catherine Dolto?
Non, ça je savais un petit peu, parce que ça c'était dans le placard où il y avait les photos de famille, et je voyais des cahiers, des choses, je me disais, mais tu gardes tout ça? Mais j'avais pas vu tout, parce que le gros dossier à propos de la naissance de mon frère aîné Jean, dit Carlos, c'était dans un cagibi. Ce que je comprends maintenant en voyant tout ce qu'on a retrouvé, c'est que je comprends où c'était dans l'appartement. C'est-à-dire que c'était un vieil appartement dans lequel il y avait des énormes placards, comme des cagibis où on pouvait rentrer à deux ou trois personnes. Il y en avait un dans son bureau dans lequel on n'allait pas, où elle avait ses dossiers. Et c'était probablement là.
Découvrir cela, quelle émotion peut-être cela procure, simplement.
C'est très touchant, parce que d'abord, alors que je savais énormément de choses de sa vie, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai découvert, par exemple dans ses agendas, le fameux agenda de 1934, des tas de choses, des lettres sur sa vie amoureuse d'avant papa. Alors elle m'avait dit des choses. Ce qui a été drôle pour nous, c'est que peu à peu, quand on a découvert tout ça, on s'est aperçu que ça correspondait exactement à ce qu'elle nous avait toujours raconté. Et à moi, elle m'avait raconté plus qu'à mes frères, de femme à femme. Et toutes les archives sont venues corroborer ça. Ça, c'était assez émouvant, quand même.
Alors, regarde l'historienne Emmanuelle Reilly sur ce drôle d'objet, quand même, hein, ce livre Archives de l'intime.
Oui, un drôle d'objet un peu michelettien, on pourrait dire. On leur a compris.
Expliquez votre pensée. Oui.
Michelettien, mais non, je vais laisser Yann Potin, qui est un grand spécialiste de Michelet, en plus de Françoise Dolto, nous expliquer. Non, mais je crois que les auditeurs auront compris qu'il ne s'agit évidemment pas d'un projet biographique au sens classique du terme, et c'est ce qui fait sans doute aussi l'intérêt, l'originalité de ce livre. Et ce qui en fait la profonde, j'irais, pertinence, c'est que, enfin, tel que je l'ai lu, il s'agit en effet de finalement d'esquisser le parcours d'une vie à travers des fragments, des traces, une archivie, dites-vous. C'est un jeu de mots, oui, voilà, mais qui ferait peut-être
un joli
pas
jeu
mal.
De mots.
Ce qui me semble-t-il est très pertinent et très beau d'une certaine façon, je voudrais que vous en expliquiez un peu, c'est que on parcourt du coup la lecture de ce livre en interprétant en tant que lecteur des signes de ces traces, un peu à la manière de ce qu'est l'éthique d'une psychanalyse qui interprète des dessins, des paroles comme des signes. Donc est-ce qu'il y avait là cette idée de finalement faire corps avec la pratique de Françoise Dolto en racontant sa vie un peu comme ça, comme des petits cailloux qu'il faut retrouver?
Même Potin, michelettiste, michelettien ici.
Complètement. Non, je crois que ça correspond en effet au pari de l'ouvrage, qui consiste à ne pas trop en dire, montrer les choses, laisser des silences, donner accès le plus possible à la matérialité de ces documents, parce que c'est aussi avant tout des objets, et c'est précisément parce qu'ils résistent en tant qu'objets que parfois ils se conservent. Donc il y a vraiment, véritablement aussi cette idée de résistance est effectivement proche de la démarche analytique, et aussi peut-être de la démarche historienne, mais de manière, si j'ose dire, comme on est dos à dos. Hein, l'historien et le psychanalyste sont à la fois très proches et en même temps, voilà, ils sont peut-être
la tête à deux dos. Ils regardent pas du même côté.
Voilà, ils regardent pas du même côté, mais pourtant ils ont un dos commun. Et ce dos, c'est entre autres ces signes, ces traces, et que le pari du livre, c'était de dégrainer comme ça des petits cailloux, en effet, et de laisser la part d'interprétation au lecteur. Donc le véritable texte qui se dessine à travers ce montage de documents, qui est parfois un peu guidé par certains...
Par ce texte inédit, il faut peut-être le rappeler, qui s'appelle donc Traversée du siècle, qui est une conversation entre
Boris Dolto et Françoise Dolto, à la fin de la vie de Boris, qui est d'ailleurs une conversation qui a été inachevée par la mort de Boris, et qui est une façon de introduire une autre dimension qui serait l'archive sonore, c'est-à-dire qui en absence, voilà, dans l'idéal, si vous voulez, ce livre, puisqu'il essaie de mettre en batterie, si j'ose dire, une archive au sens propre du terme, textuelle, documentaire, même tendant vers la relique parfois, avec des objets, des mains, une archive visuelle, la photo, mais elle aussi prise en charge dans sa dimension d'objet, notamment à travers les albums, et puis l'archive de la parole. Donc c'est un petit peu l'ingrédient du livre. Et en plus de ça, on a ajouté également des photos contemporaines qui permettent de faire une logique non pas michelétienne cette fois-ci, mais peut-être plus proustienne, d'inoculer quelques petits grains, quelques madeleines ou quelques de ci de là pour faire fonctionner la mémoire. Mais une fois de plus, le fonctionnement de cette mémoire à plusieurs voix, elle est toujours dans le regard du lecteur. C'est-à-dire, on laisse le lecteur justement être l'interprète, et c'est aussi ça qui fait que le livre se tient pas mal à distance de la démarche de l'historien également, parce que justement l'historien traditionnellement ne montre pas les archives. Il les commente, il les cite.
En note de bas de page.
C'est ce qui rend ce livre et sa lecture émouvante, hein, que l'on est connu ou pas Françoise Dolto, on est quand même dans une intimité. Ce titre, il faudrait peut-être effectivement le souligner. Oui. Archives de l'intime, ce ne sont pas des archives intimes. C'est évidemment pas du tout la même chose, mais c'est vrai qu'on évoquait l'agenda, les journaux intimes aussi. C'est une importance, et vous notiez, Emmanuel Loyer, la contemporanéité de Simone de Beauvoir et Françoise Dolto sur ce registre.
Oui, j'ai pensé un peu à Simone de Beauvoir. D'abord, il se trouve qu'elle est née en 1908, qu'on a fêté le centenaire aussi cette année, mais surtout ce qui m'a frappé, c'est en effet, c'est des archives de l'intime qui ne sont pas intimes, au sens où c'est à la fois l'extrême singularité et une forme d'universalité de qu'est-ce que c'est, par exemple, on se place là au début de son itinéraire, il y a des tas évidemment, elle traverse des expériences qui sont à la fois des expériences du siècle, l'enfance endeuillée par la Première Guerre mondiale, et pour revenir à Simone de Beauvoir, la construction de soi d'une jeune fille rangée à travers la pratique du journal intime et à travers une pratique épistolaire tout à fait intensive, et puis aussi avec cette espèce d'amitié amoureuse avec l'amie Agnès dans le cas de Françoise Dolto, Zaza dans le cas de Simone de Beauvoir, et puis cette espèce d'arrachement à soi-même et au milieu de la bourgeoisie que toutes les deux ont eu à affronter. Alors il me semble que Simone de Beauvoir, ça a peut-être été plutôt parce que la famille était ruinée, on lui a dit il faut que tu travailles. Françoise n'a pas eu cette chance, et donc ça a été quand même plus...
On sent qu'à la fin des années 20, c'est vrai. Elle disait, il y a une interview, je crois, avec Bernard Pouz, il fallait que je me fasse pardonner de faire des études, que je fasse quelque chose d'aussi indigne, parce que dans cette famille-là, si on avait son bac, on n'était plus mariable. Le grand problème de ma grand-mère, c'était de marier ma mère. Et moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il y a justement cette conversation où réapparaît la figure de Boris Dolto, parce que Françoise, Dolto, c'est le nom de Boris, quand même. Oui. Et elle disait toujours qu'elle ne serait jamais devenue ce qu'elle était sans lui. Et c'est vrai que dans mon esprit, ils sont absolument indissociables, tellement leur chemin intellectuel se sont tricotés ensemble, et comment ils ont nourri chacun la pensée de l'autre.
Oui. Non, c'est une figure, c'est vrai, très intéressante. Il faut peut-être dire.
Un livre contre la parthénogenèse.
Ah oui.
Catherine Dolto.
Oui, c'est vrai, je dis toujours.
Vous êtes la fille de votre mère, mais aussi de votre père.
Je le dis toujours partout, parce que d'abord, sinon, elle n'aurait pas été contente qu'on dise ça. Vous êtes les enfants de Françoise Dolto. Elle dit, on s'y est mis à deux quand même.
Puis on voit dans les photos de famille du début, là, la famille Dolto, donc russe émigrée, et puis qui ensuite devient.
Une figure très importante de la massothérapie puis kinésithérapie, puisqu'en fait Boris Dolto, médecin
rhumatologue
et qui a hérité d'une filiation avec un des fondateurs de la massothérapie en France, le docteur Kopp, et qui a dirigé cette école pendant toute sa vie, en fait, cette école de la rue Cujas, qui porte d'ailleurs aujourd'hui son nom, au passage, école Boris Dolto, et c'est d'autant plus important que le corps et les techniques du corps et de soins du corps sont, est au cœur de la pensée de Françoise Dolto. Oui. Donc, c'est doublement, si j'ose dire, essentiel, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement identitairement un couple extrêmement uni, jusqu'à une forme de fusion que certains documents d'ailleurs.
Alors Catherine Dolto fait signe.
Non, moi je ne les ai jamais vus comme fusionnels. Je trouve justement ce qui était passionnant en les voyant vivre, c'est que ils étaient chacun totalement libres. Elle partait quelquefois en vacances toute seule parce qu'elle adorait la neige, lui pas. Ils étaient à la fois complètement libres et complètement ensemble, mais c'était pas du tout fusionnel. Enfin voilà, c'est pas contre qu'on dise ça, mais c'est vrai qu'il était aussi connu dans son métier que elle dans le sien, aussi novateur. Et ce qui est intéressant pour moi dans la pensée de Françoise Dolto et qui est très actuelle parce qu'elle était très en avance, c'est que maintenant tout le monde psy arrive à la question du corps. Que faire de la corporalité du corps? Et elle a une théorie là-dessus qui s'appelle l'image inconsciente du corps et qui est un outil pour faire le pont entre le psychisme et le corporel, qui est un outil extrêmement efficace sur le plan clinique. Et c'est ça qui est intéressant dans son histoire, dans leur histoire.
Et dans ce livre, aussi le corps de Françoise Dolto, frère, vous le dites.
Ça, c'est important. Mais comme Catherine Dolto fait le pont pour moi vers le colloque, parce que c'est ça, l'actualité d'une
parlons
pensée.
Du colloque.
Parlons de ce colloque qui aura lieu cette fin de semaine, 12, 13 et 14 décembre à la maison de l'UNESCO à Paris, avenue de Suffren. J'ai dit son titre tout à l'heure, Françoise Dolto, actualité d'une pensée. Voilà, dire un peu.
Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que c'était la journée mondiale de la philosophie. C'est-à-dire que l'UNESCO consacre la journée mondiale de la philosophie à Françoise Dolto. Et ça aussi, c'est un pont très intéressant. Parce que ce n'est pas qu'une pensée de thérapeute. C'est une pensée de citoyenne qui pense à travers l'outil psychanalytique et qui pense la place de l'enfant et de l'autre dans la société. C'est-à-dire cette question du sujet, l'autre est un sujet, et d'être toujours dans un rapport d'égalité, mais jamais de symétrie. Et je crois que la confusion qui fait qu'on défigure ce qu'elle a dit et qu'on lui fait dire ce qu'elle n'a pas dit vient de là. C'est-à-dire que on oublie la question de l'asymétrie et pour être tous des égaux. Non, elle dit, on est tous des sujets de valeur égale, mais il y a un parent, un enfant, un maître, un élève, un professeur, un enseigné, un enseignant, et on n'est pas tout mélangé. Elle était vraiment pas dans cette pratique du mélange.
Alors, journée mondiale de la philosophie, vous faites bien de le dire, et puis ça s'inscrit aussi, c'est demain que sera célébré, notamment à l'Université Populaire du Quai Branly, le 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme de 48. Il y aura Stéphane Hessen qui sera demain au Quai Branly pour en parler, l'un des rédacteurs de cette magnifique déclaration. Mais alors, ce colloque, actualité d'une pensée, c'est vrai que ça pose en sous-texte la question de la perception de la pensée de votre mère de son vivant. Une réception alors complexe, brouillée aussi sans doute, notamment on va en parler justement de la notoriété due notamment à cette émission de radio qu'elle n'a fait que 2 ans. Elle avait déjà 70 ans presque à ce moment-là, 76-77. Vous écrivez dans le texte que j'évoquais tout à l'heure dans Archives de l'intime, Françoise Dolto était méconnue parce que trop connue. Sa notoriété, cette moisissure, lui faisait de l'ombre.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce mot moisissure?
Mais parce que moi, il se trouve que j'ai vécu depuis que je suis petite avec pas mal de gens connus pour des raisons très diverses et que j'en suis venue à voir la notoriété comme une moisissure. C'est un truc qui vous colle à la peau, faut faire avec, ça vous encombre, c'est pas commode, ça sert pas à grand chose, mais quelquefois, on ne peut pas l'enlever. C'est de la moisissure qu'on ne peut pas enlever forcément. Et donc, souvent, vous savez, quand quelque chose est moisi, on ne voit pas comme c'est beau en dessous. Alors c'est un peu tout ça, la notoriété, ça fausse l'image, etc. Donc c'est vrai qu'à sa mort, il y avait et encore maintenant, on le voit dans cette espèce d'image de la bonne grand-mère, la psychanalyse, qu'elle était absolument pas. Elle n'était pas du tout une bonne grand-mère. Elle pouvait être parfois assez rude, assez brutale. Elle avait son franc-parler. Et comme elle renvoyait toujours les gens à leurs désirs, c'est-à-dire à travers leurs désirs, à leurs responsabilités, elle était dans une pensée absolument pas dans l'attendrissement victimaire. Donc c'était pas forcément politiquement correct pour les gens et pas forcément facile à entendre.
Alors, puisque on parle de Françoise Dolto, et pour l'entendre quand même, on va diffuser juste un extrait à titre d'exemple de cette... Alors, il y a l'édition du centenaire, du coup, réalisée par Frémaux, France Inter et Lina, l'intégrale de l'anthologie radiophonique Françoise Dolto, l'édition du centenaire lorsque l'enfant paraît. Cette émission, juste en rappeler le principe, la genèse de Catherine Dolto, pour savoir comment elle y participait, de quelle façon...
Alors, départ, il y avait eu une émission sur Europe numéro 1, où les auditeurs arrivaient à l'antenne sans qu'elle puisse les avoir choisis. Donc c'était moi qui choisissais. Et puis elle a voulu arrêter parce que c'était trop court, les gens ne réfléchissaient pas. Et donc, quand plus tard, Jean Chouquet et Pierre Vigne sont venus nous proposer ça, elle a dit oui, mais à condition que les gens écrivent, pour qu'ils fassent un pré-travail d'élaboration. Et donc, on enregistrait une fois par semaine. C'était moi qui lisais le courrier et qui construisais les émissions. Et quelquefois, à la fin, elle n'avait pas le temps de lire les lettres parce qu'il y avait des lettres de 40 pages. Donc, je lui soulignais, surlignais les passages essentiels, je résumais les lettres. Et en fait, ça a été un travail magnifique de faire réfléchir les gens en les rendant légitimes dans leur réflexion en tant que parents. Et on a vu une progression de la qualité du courrier qui était absolument bouleversante.
Alors, on va entendre ici, hein, c'est Jacques Pradel qui présentait cette émission et qui présentait ses lettres à Françoise Dolto. On a choisi, Laurence Millet a choisi une question d'actualité.
On a un prolongement finalement à ce que vous venez de dire à travers une autre lettre qui est la lettre d'un normalien qui pose des questions bien précises et bien différentes. On répondra à la deuxième partie de sa lettre tout à l'heure si vous voulez. Mais il commence sa lettre en vous parlant de l'esprit critique des enfants et de la formation de l'esprit critique. Alors lui, c'est ce qui commence comme ça. Il dit l'enfance, c'est une période où on se fait piéger, entre parenthèses, dans la mesure où un enfant ne sait pas ou sait mal différencier, identifier le vrai et le faux. Et il arrive donc qu'il intériorise aussi des informations fausses. Bon, alors il vous demande de parler de l'éveil de l'esprit critique et comme fonction, si vous voulez, de filtrer le vrai et le faux dans les paroles que l'enfant entend.
Oui.
Et il vous demande à partir de quel âge, à votre avis, un enfant peut-il commencer à construire ses limites pour se défendre contre ce qui est faux ?
Oui. Vous savez, je n'aime pas répondre des choses générales et philosophiques comme ça, c'est trop difficile. Mais un enfant n'entend pas les mots comme nous les entendons. Il entend les mots avec ce qu'il a comme référence sur les syllabes qu'il entend. Tout à l'heure, nous avons parlé des images que les enfants donnent. Eh bien, on peut les faire dire « oui, tu la sens comme ça ». On peut leur faire comprendre que les sentiments, il n'y a ni vrai ni faux dans les sentiments, c'est subjectif dans le sens que chacun éprouve et fait des comparaisons entre le voir, l'entendre, le toucher, pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs chaudes et puis des couleurs froides, pourquoi, enfin, c'est la même chose chez les peintres, n'est-ce pas, et il y a pourtant des musiques tristes et puis il y a des musiques gaies, il y a des rythmes et puis il y a des tonalités. Alors je crois que le vrai et le faux, même nous, il y a la poésie et puis il y a, pour les enfants, il y a le vrai pour de vrai et le vrai pour de rire. Je crois que c'est comme ça qu'on peut parler avec les enfants. Quand des parents disent quelque chose et que l'enfant le reprend en lui disant « c'est pas vrai », si les parents ont menti, il faut toujours que les parents disent « mais oui, c'est parce que tu es malin, j'avais dit quelque chose de pas vrai, tu l'as bien vu ». Le sens critique de l'enfant commence généralement par ce que les parents racontent de faux. Les parents reviennent d'avoir vu quelqu'un et ils racontent quelque chose de faux. Ça arrive très souvent. Et l'enfant dit « mais c'est pas vrai, elle t'a pas dit comme ça la dame. Ah oui, rappelle-moi comment elle a dit. Ben, tu vois, j'ai déjà inventé ». Quand les enfants sentiront que les parents reconnaissent qu'ils inventent, et les parents inventent tout le temps, ils déguisent la vérité, et l'enfant s'en rend compte, il ne se rend pas compte pour lui, mais il se rend compte pour les parents. Alors, je crois que c'est comme ça, c'est quand les parents acceptent la critique des enfants que les enfants ensuite acceptent de s'autocritiquer par rapport au vrai pour de vrai, et puis au vrai pour de rire. C'est pour de rire, mais c'est agréable de parler comme ça parce que c'est poétique, parce que l'imaginaire est en jeu. Nous en avons déjà parlé à l'occasion du Père Noël et comme vraiment ça ouvre un champ tout à fait nouveau à l'enfant quand il connaît l'existence du Père Noël mythe, du Père Noël dont on parle, et puis qui n'est pas quelqu'un qui est né, qui a eu un père, une mère, qui mange, qui boit, qui dort, qui se couche et qui mourra. C'est autour de tout ça avec les enfants qu'il faut en parler. Il faut parler du vrai et du faux. Le cinéma, tout ce qu'ils voient, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il faut tout le temps leur dire, mais tu sais, ça, c'est une histoire que des gens jouent la comédie pour le montrer, mais ce monsieur, il n'est pas mort pour de vrai, on n'a pas tiré pour de vrai, etc. Mais c'est très difficile, en effet, c'est de plus en plus difficile parce que les parents de plus en plus se repaissent de fiction à la télévision et que les enfants croient que c'est du vrai. Du vrai pour de vrai.
du vrai pour de vrai. C'était Françoise Dolto dans cet extrait, alors de ce très beau coffret aussi, Lorsque l'enfant paraît, l'édition du centenaire, hein, les émissions 76-77, c'était sur France Inter. Alors, l'actualité, c'est donc ce colloque, ces journées du centenaire, 12, 13, 14 décembre, à la maison de l'UNESCO. Vous avez évoqué quelques-uns des axes comme ça, sur la corporalité notamment, mais dans la présentation, j'aime beaucoup ce que vous dites. Enfin, j'imagine que c'est vous qui avez sans doute rédigé, Catherine Dolto, cette présentation, mais pas toute seule, mais l'idée que justement, dans cette époque, dans la volonté actuelle, en tout cas de certains, certaines élites médicales ou politiques, de vouloir absolument créer des grilles d'évaluation, de faire des statistiques. Voilà, l'héritage Dolto, la transmission Dolto, c'est chaque personne est un sujet unique, singulier, et qu'évidemment, on ne saurait dépister à 3 ans à l'entrée à la maternelle des futurs délinquants avec des schémas comme ça statistiques. C'est quand même une aberration.
Oui, absolument. Elle faisait toujours le pari de l'intelligence de l'autre. Et si on s'intéressait, si on appelait en lui cette intelligence, elle voyait bien que ça donnait des résultats et elle était contre toutes les classifications. Elle était toujours dans une pensée du devenir. Jamais personne n'était figé. Et toujours dans voir de quelle manière une chose pouvait tourner d'une manière positive. Je me souviens une fois, une femme lui avait dit « Vous rendez compte, c'est abominable, ma belle-mère me dit des choses, je suis enceinte, elle me dit des choses terribles. » Elle dit « Mais écoutez, elle fait son chant du cygne de mère d'enfant unique. » Elle dit « Voilà, elle avait une façon très poétique de me dédramatiser et c'était très agréable à vivre. »
Alors comment est-ce que vous avez construit l'architecture de ce colloque? Parce que trois journées sont bien remplies.
Oui, hein, d'abord on s'est dit « Si on fait une journée, on va se faire une journée entre nous, des happy few, on va dire « Ah, qu'est-ce qu'elle était bien » et ça n'a aucun intérêt. » Donc on s'est dit « Soyons courageux, faisons-en trois. » Et ce qui nous intéressait, nous, c'est de montrer combien cette pensée reste vivante, actuelle et finalement très moderne. Malgré le contexte de l'époque et de la société qui a beaucoup changé, il y a des choses qui restent très modernes et ce qu'elle a inscrit dans la société, comme par exemple son travail sur l'école, sur la pédagogie, les maisons d'accueil pour les enfants divorcés, l'aide aux enfants de prisonniers, que ce soit des enfants qui naissent en prison ou bien qui vont en visite chez leurs parents, tout un tas de choses, le travail avec les sourds et muets qu'on connaît pas, mais elle a été une grande militante de la langue des signes, tout ce qu'elle a permis, pas elle toute seule, parce qu'elle était en fer de lance, bien sûr, de changer dans les services de pédiatrie, dans les maternités, dans les hôpitaux. Tout ça, ça reste très moderne. Et je crois qu'en plus, ça a besoin d'être redit. Parce que nous sommes dans une époque où il y a une certaine régression de ce point de vue-là. Et en plus, alors moi, personnellement, je trouve que cette façon de concevoir la vie, l'éducation, la société est porteuse de paix. Hein, parce que c'est une façon de concevoir le rapport entre les autres où la manière de considérer l'autre, la place qu'on lui donne et le dialogue qu'on fait, c'est toujours quelque chose d'exigeant. On tire toujours l'autre et le débat vers le haut et vers pas de drame et cherchons la paix. Et je trouve que de nos jours, c'est pas mal. Parce que finalement, elle montre bien. Et les gens qui ont travaillé avec elle, comme les gens qui font l'école de la Neuville, les gens qui travaillent dans les prisons, montrent bien que si, qu'il y a une façon toujours d'aider l'autre à se tirer plutôt vers le bas que de l'assimiler, que de l'identifier à son acte, à ce qu'il a fait, et de le mettre dans une situation où il n'y a pas d'autre choix que de se laisser pourrir et mourir de désespoir. C'est une pensée optimiste. Finalement. Hein. En même temps, pour un thérapeute, c'est quand même athlétique de rester optimiste. Mais je trouve qu'on a assez besoin de ça. Et on a voulu montrer que dans le monde entier, parce que si on regarde le programme, il y a des gens du monde entier. Hein. Et c'est pas pour rien que c'est à l'UNESCO et que c'est la Journée mondiale de la philosophie. Il n'y a pas que des analystes, il y a aussi des éducateurs, il y a des chercheurs, etc. Que dans le monde entier, ça fonctionne. Par exemple, il y a des maisons vertes à peu près dans le monde entier. Hein, ce qui a été quand même l'accomplissement de sa vie, la création des maisons vertes. Alors, il y aura des gens du Brésil, de Russie, d'Arménie, qui vont venir parler de ces choses-là.
Alors, la question de l'actualité de la pensée, c'est évidemment la question de la transmission aussi de la pensée. Alors, ça passe alors, par ces archives sans doute, par ces émissions de radio. Il faut quand même signaler, dans le peu de temps qui nous reste, qu'il y a 2 coffrets de DVD qui paraissent. 3 DVD, Françoise Dolto parle de la psychanalyse, de l'origine, de l'éducation, c'est réalisé par Arnaud de Mesama. Il y aura d'ailleurs des extraits qui seront diffusés lors des rencontres. C'est Abacaris Film qui produit cela, et un coffret de 4 DVD chez MK2, Françoise Dolto, une femme psychanalyste et citoyenne, réalisée par Emmanuel Nobécourt, qui sont sortis là, un peu plus tôt de cette année. Mais est-ce que justement, elle avait là, aussi cette conscience d'utiliser le média audiovisuel et son impact très fort pour aussi transmettre sa pensée? Est-ce que c'était aussi un outil pour elle de diffusion?
Oui, absolument. En même temps, elle en avait beaucoup de craintes, parce qu'elle savait que c'est s'exposer à être dénaturée, avoir sa parole galvaudée, etc. Mais elle a toujours eu ce souci, parce que dans les années 47-48, elle parlait, elle écrivait dans le journal des femmes communistes, elle parlait à la radio. Elle a toujours eu ce souci que le savoir du psychanalyste doit permettre aux parents et aux éducateurs en général de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il fallait informer tout le monde sur ce que c'est qu'un bébé, ce que c'est que les liens parents-enfants.
C'est un devoir, là, pour le coup. On a commencé par là, mais elle le ressentait, elle, vraiment, voilà, dans sa pratique même. Sortir du cabinet du cabinet de l'analyste pour porter le fruit de ce travail.
Voilà. Et elle a toujours eu ce souci-là chevillé au corps, en même temps qu'elle avait une grande crainte. Et ce devoir d'essayer de tenir sur cette ligne des crêtes, de montrer en quoi il y a un lien entre ce que sont les parents et ce que sont les liens parents-enfants, sans jamais culpabiliser les parents. Et ça, c'était, je crois, son grand art, et c'est pour ça, je crois, que cette émission a eu un tel impact. Les gens se sont sentis écoutés, reconnus, mais pas jugés.
Emmanuel Loyer, dernier mot.
J'ose à peine poser ma question à 13h28.
Ce sont des questions qui restent ouvertes, elles sont faites pour ça.
Non, parce que on comprend que donc elle a multiplié les médiations, les intérêts, notamment envers les grandes expérimentations pédagogiques des années 70. Mais j'aurais envie de dire, qu'en est-il aujourd'hui de la pensée de Françoise Dolto chez les analystes, là, pour le coup?
Effectivement, à 13h28 et 45 secondes, Catherine Dolto.
Non, mais parce que c'est vrai que c'est toujours là où, d'une certaine façon, elle a été le moins bien reçue, finalement. On peut dire ça comme ça.
Oui et non. Si vous voulez, évidemment, dans le milieu psychanalytique n'échappe pas aux querelles. Et il y a
Ah bon ?
Ben vous, figurez-vous.
Moi, je voulais juste dire à 13h29 que je comprends qu'on n'a pas le temps de répondre, mais j'ai beaucoup rêvé sur le couple, en lisant et en écoutant ça, Dolto-Lacan.
Lacan, ben oui.
C'était des vieux compagnons de route.
Très grande proximité intellectuelle,
pas beaucoup de liens au quotidien. Ils passaient pas leurs vacances ensemble, ils mangeaient pas ensemble très souvent, mais ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, et je pense que chacun nourrissait la pensée de l'autre. Je sais plus qui disait que Lacan était toujours très impressionné quand il écoutait Françoise. C'est pas une lacanienne.
Ce que vous dites, je le fais.
Oui, elle disait, tu sais, je comprends pas toujours ce que tu dis, ça n'a pas d'importance parce que tu fais ce que je dis. Elle n'était pas une lacanienne, elle n'était pas son élève, ils étaient des compagnons de route. Et elle voulait absolument être entendue, elle était au service de quelque chose.
Voilà, nous on était au service aussi de la diffusion de cette pensée de Françoise Dolto, alors multi-support, le livre Archives de l'intime paraît chez Gallimard.